Salut, c'est Johan Durand, coureur passionné. Shox, leader mondial de casques à conduction osseuse, lance l'Open Run Pro 2. Confort, légèreté, qualité audio, jusqu'à 12 heures de musique. Idéal pour bouger en sécurité jour et nuit. Shox Open Run Pro 2, performance et sécurité sans compromis. Restez en mouvement avec le podcast RMC Running.
RMC Running,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de RMC Running. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pratique qui concerne bon nombre de coureurs et parmi eux, forcément, nos auditeurs. Puisqu'on va parler de l'impact de la musique sur la course à pied, quels effets cela produit sur le cerveau, pourquoi est-ce interdit en compétition officielle, quels sont les bienfaits et les risques de cette pratique. Et pour en parler, j'accueille notre maître yodu, Johan Durand, fidèle au poste. Et là, salut Johan.
Salut à tous, salut Roxane, ça va?
Ouais, ça va et toi? Impeccable. Est-ce que tu écoutes de la musique pendant tes entraînements? Est-ce que ça t'arrive?
J'écoute l'excellent podcast RMC Running,
évidemment.
Bien sûr.
Et puis dans un instant, on va accueillir également un neuropsychologue et un arbitre de la Fédé d'athlétisme. Épisode qui s'annonce passionnant, Johan, parce que ça concerne vraiment beaucoup de monde. 68% des coureurs écoutent de la musique pendant leur footing.
Ah ouais, quand même.
Eh ouais. Allez, on s'intéresse à tout ça tout de suite. C'est parti.
RMC Running.
Et on accueille sans plus tarder Hervé Platel, neuropsychologue à l'université de Caen-Normandie. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le détail de l'impact sur la pratique de la course à pied, de la musique sur la course à pied, quel est l'impact de la musique sur le cerveau en règle générale?
De manière générale, en fait, ce que les travaux de neuroimagerie cérébrale montrent, c'est que quand vous écoutez de la musique, eh bien, ça provoque une activité dans votre cerveau qui est beaucoup plus large que les simples régions auditives. En fait, la musique va investir votre cerveau, va faire fonctionner des régions en lien, justement, avec la représentation du corps, la motricité, on va en parler. Et puis, la musique, vous allez l'évaluer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi de la mémoire. On va avoir une stimulation des circuits de la mémoire assez facilement. Donc, souvent, on parle de symphonie neuronale quand on écoute une musique, parce que dans notre cerveau, il y a très peu de régions qui ne sont pas stimulées par la simple écoute de la musique.
Johan, on le disait à l'instant, 68% des Français courent avec de la musique dans les oreilles. C'est considérable.
C'est considérable, mais après, c'est vrai que si tu analyses, c'est vrai que la course à pied, on le voit, elle se pratique en club, mais elle se pratique aussi assez régulièrement, souvent solo. Et c'est vrai que quand tu es solo et que tu as un entraînement, un footing en endurance fondamentale ou une sortie longue, ça peut paraître long. Hein. La motivation, des fois, elle est difficile si tu n'as pas, ce petit coup de boost. Tu peux trouver ça long, surtout pour les débutants.
Ouais, c'est un moyen de briser la solitude un peu.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est la perception de l'effort qui te paraît moins long quand tu as quelque chose dans les oreilles que passer une heure où tu es juste avec tes pensées, quoi. Mais ça, c'est propre à chacun, ouais.
Alors justement, Hervé, quel impact ça a sur le cerveau pendant la course à pied, la musique?
Ce qu'on peut attendre en écoutant de la musique quand on fait un entraînement, c'est, je dirais, trois types d'effets, trois types de mécanismes qui sont assez bien décrits. Le premier type d'effet qui est attendu, c'est d'essayer de se synchroniser avec une musique, de choisir une musique qui va permettre donc de caler son pas, son rythme sur le rythme de la musique, et ça va permettre de soutenir très facilement ce rythme, parce qu'on sait que dans notre cerveau, il y a une connectivité privilégiée entre nos régions auditives et les régions qui représentent les différentes parties de notre corps. Vous savez que dès qu'on entend de la musique un peu rythmée, on a envie de bouger en rythme, de se dandiner, de taper des mains, taper des pieds. Eh bien, cet effet d'entraînement auditivo-moteur, il est très puissant. D'ailleurs, il fonctionne même chez les animaux. Et pour le coup, ça c'est un phénomène un petit peu physiologique, de synchronisation physiologique que le jogger peut attendre. Ça c'est un premier effet. Et puis après, vous avez signalé que évidemment parfois c'est barbant, hein, les entraînements, on est tout seul. Écouter de la musique, surtout de la musique qui nous plaît, ça permet d'avoir l'impression que le temps passe plus vite, hein, même quand on fait pas du footing ou un entraînement. Écouter de la musique et qui nous plaît, on a l'impression que le temps passe plus vite. Ça, c'est une constante attendue. Mais je pense que le deuxième effet qui est important pour l'entraînement, c'est que on va avoir un détournement de l'attention par la musique de la douleur physique hein, ou de l'effort hein, à maintenir. Et ça s'explique très très bien par le fait que on va concentrer notre attention sur la musique et les circuits liés à l'attention vont pas être sollicités ou attirés vers en fin de compte la prise de conscience de la douleur ressentie dans les muscles,
etc. La perception de l'effort sera pas la même.
Absolument. Et en fait, c'est un effet d'hypnose, hein. C'est comme l'hypnose, c'est-à-dire on va détourner l'attention de la douleur ressentie de manière à ce que on continue notre effort sans avoir l'impression d'être dans un effort douloureux. Puis le troisième effet, c'est un petit peu de cumuler aussi l'effet plaisir. On sait que quand on écoute de la musique, si c'est une musique qu'on aime bien, on va avoir la libération d'un certain nombre de substances liées au bien-être, la dopamine, parce que ça va constituer une récompense, la noradrénaline, etc. Donc on va baisser notre taux de cortisol, on va augmenter nos neurotransmetteurs au bien-être
qui vont provoquer un effet bien-être. Hein, c'est la molécule du stress.
Voilà. Donc, en fait, c'est tout le cumul de ces effets-là qui font que, effectivement, utiliser la musique pour un entraînement peut être positif et qu'on comprend bien pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans une compétition officielle parce que s'il y a des gens qui ont la musique pour se soutenir et d'autres pas, ils ne sont pas, logés à la même enseigne.
Yoann, tu confirmes que quand on écoute de la musique, la perception de l'effort n'est pas la même ?
Ah ouais, oui, complètement. Ouais. On est moins à l'écoute de son corps. Hein. On a tendance un petit peu à suivre le rythme de la musique. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai vu des athlètes qui couraient en musique et qui couraient un peu en sur-régime. C'est-à-dire que tu étais un peu entraîné par l'espèce de tempo lié à la musique. Et du coup, c'est pas du tout adapté à tes vraies allures de course. Et du coup, ça te crée une fatigue prématurément et t'explose. Et ça, faut faire attention. Et
ça peut être un des risques.
Ouais, c'est pas dangereux, c'est juste un risque d'un point de vue physiologique et d'entraînement. On n'est plus du tout dans les bonnes allures, et donc ça, c'est quand même un inconvénient. Et après, la deuxième chose, c'est un peu la même chose que d'être à l'écoute de son corps, mais c'est penser quand on court. Généralement, il faut aussi penser à sa posture, penser à sa respiration, penser à sa foulée, penser à ces choses comme ça. Et c'est vrai que la musique, elle te distrait et t'es pas du tout concentré sur ça. C'est pour ça que moi, la musique, je l'écoute uniquement en footing, en endurance fondamentale. Quand j'ai envie de penser à autre chose et que j'ai pas envie que j'ai un peu la flemme d'y aller et tout ça. Mais par contre, dès que c'est une séance de fractionné ou une séance d'allure marathon ou une séance qui va vraiment compter dans mon entraînement, je cours pas en musique parce que j'ai vraiment envie d'être à l'écoute de mes sensations, de penser justement à ma pose de pied, de penser à mes épaules, de penser à mon relâchement, de penser à tout ça plutôt que d'avoir justement le cerveau hypnotisé par la musique, ouais.
Il y a une étude qui a été menée à l'université Brunel sur 30 participants pour établir l'augmentation des performances sportives en fonction du choix de leur playlist. Si la musique est bien choisie, les performances peuvent augmenter jusqu'à 15%. C'est considérable, c'est Hervé.
Oui, tout à fait. Et là, on l'a dit, hein, donc ça peut faire un effet boost, etc., et permettre de maintenir l'effort. Par contre, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit systématique, parce que ce qui est bien, c'est d'être aussi à l'écoute de son corps. Et puis, quand son corps dit « attention, là, je suis au bord de la rupture », il faut savoir aussi prendre conscience de ça. Donc, la musique, c'est bien de l'utiliser à bon escient, et puis de savoir quelle est la bonne musique pour soi.
Alors, c'est quoi justement une bonne musique ?
Mais en fait, c'est la même question. Moi, on me pose souvent la question, c'est quoi la bonne musique quand on est dans un open space et qu'on travaille ? Alors, pour le jogger, c'est un petit peu différent. Alors, il y a l'aspect rythmique, bien évidemment. C'est en fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit caler son pas, etc. Bon, ça, c'est la première chose, hein, l'aspect auditivo-moteur que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, la bonne musique, évidemment, c'est de trouver la musique qui est sur le bon tempo, qui nous convient. Alors, il y a des laboratoires qui ont mis au point... c'est proposé. Vous pouvez constituer des playlists où, en fonction, en fin de compte, de la vitesse de votre pas, eh bien, la musique va changer, va évoluer en fonction, effectivement, de votre vitesse de pas et va augmenter ou va décélérer. Et vous pouvez, en fait, fabriquer un entraînement un petit peu dynamique et en fonction de votre état de fatigue, etc. Donc, on peut avoir, je dirais, des playlists un peu dynamiques, mais ce qui est bien, c'est de se connaître, c'est de savoir quel type d'entraînement on va faire.
Pour les séances d'endurance fondamentale, on va plutôt choisir une musique plus douce, Hervé ?
Oh oui, enfin, je pense que là, c'est pareil. Des fois, c'est bien d'être coaché, en fait, de tenter des choses. J'ai évoqué le fait de travailler en musique ou pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas travailler en musique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 68% des coureurs à pied, des joggeurs... écoute de la musique, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens que ça les déstabilise, ça les perturbe. Et puis c'est un plaisir aussi, enfin de courir et puis d'écouter la nature, le bruit ambiant, etc.
Il y a des gens qui n'aiment pas avoir la musique dans les oreilles. Bruit ambiant.
Absolument.
C'est vrai, quand on court en pleine ville, c'est parfois moins sympa.
Sur le périph parisien.
Voilà, mais on ne l'a pas évoqué d'ailleurs, l'aspect sécurité.
Oui, on y viendra,
Si on court donc dans la ville, il faut faire attention un petit peu, parce que être alerté par les bruits autour de soi, ça peut être aussi une question de sécurité. Donc il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis il y a aussi un aspect un peu technique, c'est quel type de casque, les intras, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, et puis ça peut bouger avec, il faut trouver les bons systèmes auditifs qui permettent effectivement de courir de manière confortable. Donc là, il y a plusieurs technologies possibles, même des technologies de conduction osseuse.
Voilà, j'allais vous en parler. Est-ce que les casques à conduction osseuse sont justement les bonnes solutions ?
Certains sportifs préfèrent, effectivement, parce que ça permet aussi de ne pas avoir les oreilles bouchées. Donc, de ce point de vue-là, je parlais de sécurité, c'est quand même pas mal. Après, la qualité de la musique est moindre, mais ce n'est peut-être pas ça le plus important.
On en aura un d'ailleurs pour les auditeurs à faire gagner, même deux casques Shox Open Run Pro 2. On y reviendra à la fin du podcast, mais ce sera un des bons plans du jour. Johan, est-ce que toi tu écoutes de la musique pendant que tu t'entraînes ?
Non, j'écoute rarement de la musique. J'écoute quelques podcasts de temps en temps sur des footings en endurance fondamentale où je suis solo et où j'ai justement un peu la flemme ou quand j'ai pas grand chose à réfléchir, parce que c'est vrai que la course à pied a aussi ce moyen là d'avoir des idées, de laisser son cerveau divaguer et des fois de tout mettre en ordre des fois dans sa tête quand on a qu'on est un peu stressé ou autre. Et c'est vrai que quand j'ai pas tout ça, j'aime bien courir, mais par contre j'aime bien courir avec les podcasts parce que ça me permet d'écouter
beaucoup le Moscato Show pendant que tu cours.
Exactement, j'écoute beaucoup le Moscato Show parce que voilà, tu te prends pas la tête, t'as pas besoin de réfléchir. Mais RMC Running, c'est pas mal aussi. Tu vois, t'as l'impression d'écouter une discussion comme si t'étais avec des gens autour de toi à discuter, sauf que là, tu t'interagis pas. Mais par contre, courir en musique, honnêtement, avec de la vraie musique, ça m'arrive, mais franchement, ça doit m'arriver, deux, trois fois par mois. Grand maximum, quoi.
C'est vrai, Hervé, ce que disait Johan, c'est vrai que quand on court, on laisse son cerveau parfois divaguer quand on n'écoute rien. Est-ce que c'est le même phénomène que lorsqu'on s'ennuie, par exemple, et qu'on sait que ça stimule un peu la créativité, tout ce genre de choses?
Oui, alors, il peut y avoir cet aspect-là, mais pas forcément. Et je pense que le fait de faire travailler son corps, justement, par la course, permet d'être dans un état, cognitif, un état cérébral qui n'est pas inintéressant. Et là aussi, sans avoir de musique, on peut avoir un effet un petit peu de recentrage sur soi qui permet d'associer des idées qu'on n'aurait pas forcément associées en temps normal. C'est un temps de méditation d'une certaine manière, de méditation de pleine conscience, parce qu'on est à l'écoute de ses sensations et ça peut faire émerger des idées intéressantes.
Quelle est la différence entre écouter de la musique et écouter un podcast ? Par exemple, pour tous ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux à nous écouter pendant la course à pied. Quelle est la différence entre écouter de la musique et écouter une discussion sur un podcast ?
Bah, je pense que dans une discussion, on attend aussi, enfin, on est à l'écoute du contenu, de suivre quelque chose. C'est un peu comme lire un polar, en fait. Bah, y a aussi des fois des effets de suspense, on a envie d'en savoir plus, on veut, je dirais, être nourri par aussi le contenu. Bon, la musique, en général, on écoute des musiques qu'on connaît bien pour l'entraînement. Donc, le problème d'être surpris, etc., c'est pas tellement l'objet. On pourrait tout à fait écouter des musiques qu'on ne connaît pas forcément, mais je pense qu'on n'est pas dans le même état d'esprit du tout.
On va accueillir également Nicolas Pin, qui est arbitre à la Fédération française d'athlétisme. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On le disait en préambule, l'écoute de musique en course officielle est considérée comme une pratique dopante par la Fédération française d'athlétisme. On le disait aussi juste avant, elle permet d'augmenter de 15% les performances sportives. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est notamment considérée comme dopante ?
Alors, tout d'abord, moi je voulais préciser, en fait, c'est une règle de la World Athletic. En fait, la Fédération française d'athlétisme est affiliée à la World Athletic, donc la Fédération internationale d'athlétisme, et c'est dans les textes de la Fédération internationale où il est écrit que la possession, l'utilisation de téléphones portables dans l'espace de compétition, en fait, est interdite. Et ensuite, la FFA, la FFA reprend forcément les textes principaux de la World Athletic. Cependant, il a été ajouté, c'était en 2016 en fait, lors d'un séminaire des officiels où on s'était posé la question comment interpréter cette règle. Est-ce qu'on devait disqualifier en fait les coureurs qui écoutaient de la musique? Et il y a eu un rajout où la FFA tolère en fait l'écoute de musique.
Oui, parce qu'on voit quand même sur des courses, on voit quand même beaucoup de coureurs qui ont des écouteurs ou des casques sur les oreilles pendant les courses.
Ouais, voilà.
Vous en observez beaucoup, vous?
Ah bah bien sûr, oui, puis on ne pouvait pas, par exemple, disqualifier toutes ces personnes-là. Cependant, bon, on ne voit jamais les premiers, les premières courir en écoutant de la musique. On est plus dans l'aspect récréatif pour les sportifs, en fait. Voilà.
En trail, même les élites n'utilisent pas de musique du tout, je ne sais pas.
J'ai jamais observé ça,
ultras,
non.
Sur des ultras, ouais. Des choses comme ça.
Peut-être, oui, c'est possible, c'est vrai. Après, en trail, nous, on les suit plus difficilement, forcément.
Bah ouais.
sur la route, on les accompagne, on a une moto à disposition pour suivre la tête de course, mais en trail, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Ouais.
Ce qui voudrait dire que si un élite arrivait dans les premières places, mais écoutait de la musique en même temps, il serait disqualifié et son temps ne serait pas pris en compte sur une course.
Non, puisque je vous dis, la FFA a rajouté une règle qui dit que c'est toléré, en fait.
Même pour les élites.
Même pour les élites, oui, il n'y a pas de distinction, en fait.
Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que, en effet, c'est une règle qui peut avoir du sens pour ceux qui visent les premières places, mais sur un marathon, pour ceux qui visent à partir de 3 heures, bon, on peut se dire que c'est déjà un peu plus limité, quand même.
Oui, tout à fait. Mais non, c'est autorisé du premier au dernier, en fait. Et donc, c'est la World Athletic l'interdit, bah, c'est l'aspect aide extérieure et puis c'est l'aspect sécurité. Voilà.
Johan, toi, tu as une entreprise pour coacher, pardon, j'ai trouvé mes mots. Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte quand vous coachez des athlètes? Est-ce qu'ils écoutent de la musique ou non? Et comment on arrange les séances? Et même à la venue des courses, est-ce que vous conseillez de garder de la musique sur une course si on a pris l'habitude de s'entraîner avec? Ou est-ce qu'on va essayer de faire en sorte de s'en passer un petit peu?
Ouais, bah c'est toujours cette problématique où tu es moins à l'écoute de tes sensations. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un peu... la course à pied, c'est quand même un sport où c'est vrai que tu fais qu'un avec ton corps. Et normalement, ce qu'on te demande, c'est vraiment de respecter sa respiration, de s'écouter respirer et d'être concentré un peu sur soi. Et c'est vrai que la musique, à partir du moment... Ça peut devenir presque une dépendance mentale. C'est-à-dire qu'il y a certains coureurs qui en deviennent tellement... dépendant de la musique, en fait, ils peuvent pas courir sans musique. Et quand on est là, enfin, c'est vraiment c'est pas intéressant, tu vois. C'est, enfin, normalement, enfin, moi, c'est pas l'idée générale que j'ai de la course à pied où t'es vraiment concentré sur toi et sur tes, sur ta posture, sur ton rythme, sur ton tempo et sur ton corps. Donc, effectivement, nous, après, dans le coaching, on leur demande pas forcément de ne pas courir en musique, mais on leur, vu que à la fin de la séance, t'as quand même, on leur, la vraie demande, en fait, c'est le RPE, donc c'est un peu les sensations que t'as ressenties sur la séance.
Oui.
Et c'est vrai que ça, si tu es en musique et si tu es pas concentré, enfin si tu es concentré sur autre chose que sur ce que tu as fait, bah tu as du mal à donner ton RPE, à savoir si la séance elle était dure à 6 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10. Et c'est vrai que ça peut devenir un petit peu gênant pour ça. Mais après voilà, c'est comme tout, enfin je parlais de dépendance, mais c'est vrai que ça peut être gênant si le mec il est plus capable de partir courir une fois sans sa musique. Donc ça c'est pas intéressant, ouais.
C'est un des risques, Hervé, la dépendance. Est-ce que ça peut rendre notre cerveau addict à la musique?
Oui, ça c'est des observations qu'on peut faire effectivement, et je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que la musique c'est un peu facile, hein, c'est vrai qu'on peut se caler sur le rythme, etc., et ça permet de maintenir l'effort sans avoir à faire effectivement ce travail d'écoute de soi et puis de dépassement de soi, parce que évidemment si on est à l'écoute de ses sensations, on va être très rapidement conscient en fin de compte des douleurs, ouais, des sensations désagréables. Alors comment on les gère? Et alors, c'est simple de se mettre de la musique pour les gérer, mais je dirais que la finalité, elle n'est pas là. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un risque également de baisse des performances si on arrête, j'allais dire un peu du jour au lendemain, d'utiliser de la musique pendant ses entraînements quand on en a pris l'habitude et qu'on décide de ne plus en utiliser pendant qu'on court, Hervé?
Bah, c'est clair, hein, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Bon, si on devient trop dépendant en fin de compte de ce soutien, c'est pas forcément une bonne solution, et c'est l'équilibre à trouver. Bon, bah là, on est dans une activité sportive où effectivement la musique peut être intéressante dans un contexte, je dirais, d'entraînement basique, mais je dirais que la finalité de ce sport, c'est justement d'être capable du dépassement de soi en toute conscience et en travaillant effectivement sur la manière de la maîtrise du corps.
Est-ce qu'il y a, selon vous, des musiques à prohiber? Est-ce que des musiques qui augmenteraient trop le rythme cardiaque sont à éviter?
Oh bah, je pense que là, c'est du bon sens, hein. Et ça ne vous viendrait pas à l'idée, pour soutenir votre effort, d'écouter de la musique de relaxation pour s'endormir. Bon, comme de la même manière, écouter de la musique trance à 160 battements par minute,
c'est
pas super, quoi.
C'est quelque chose qu'on peut observer dans des salles de sport, de fitness, par exemple.
Oui, à la limite, mais je dirais que bon, ça ne peut pas être dans la durée, hein.
Oui, ouais, quand c'est un sport plus cardio, ouais. Il faut éviter.
Ouais. Sur des efforts courts, ça dépend quel type d'effort, mais effectivement, si c'est du fractionné très court, très intense, pourquoi pas mettre de la techno ou de la musique à fond, effectivement, ça peut te booster, mais sur une sortie un petit peu plus longue, effectivement, faut savoir ce qu'on fait, si c'est plutôt de l'endurance ou du sprint, quoi.
Est-ce que la musique douce peut aussi aider pour de la récupération?
Ah, ça oui.
Oh bah bien sûr, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut utiliser la musique, je dirais, de manière appropriée. Ça peut être avant l'effort, après l'effort, pendant éventuellement pour le soutenir, mais avant et après l'effort, c'est clair qu'on va pas utiliser le même type de musique, on va utiliser une musique qui va permettre de diminuer le stress, qui va permettre éventuellement de retrouver donc une synchro cardiovasculaire donc plus calme, une tension artérielle aussi diminuée. Bon, évidemment, ça peut être intéressant de le faire. Et c'est intéressant de le faire avec la musique pour s'entraîner, je dirais, à se relaxer d'un point de vue corporel, d'un point de vue cardio-ventilatoire. Mais c'est bien aussi de pouvoir le faire sans musique et en toute conscience.
Yoann, tu confirmes, ça aide pour la récup?
Ouais, moi j'aime bien, sur les phases d'étirement, d'assouplissement, des choses comme ça, mettre vraiment de la musique douce et relaxante pour récupérer. Ouais, t'as l'impression tu t'endors pas, mais tu fais vraiment un vrai retour au calme où tu fais redescendre le cardio. Et je trouve que ça, pour le coup, ça m'aide à vraiment le faire et à être plus zen, tu vois. Et,
ouais.
Et effectivement, ça, c'est, bah, alors, c'est juste la partie retour au calme. Hein. Ce n'est pas ça qui va te permettre de progresser en course à pied, parce qu'on sait très bien que c'est le fractionné ou les choses comme ça qui vont t'aider. Mais par contre, le retour au calme, le fait de redescendre un peu la tension et tout ça, surtout quand tu cours après un effort intense et tout ça, c'est bien. Et tard le soir, si tu veux t'endormir quelques heures après, admettons tu cours à 20h, tu cours de 18h à 20h et tu veux trouver le sommeil à 21h30, 22h, bah effectivement le fait de redescendre un peu comme ça et de mettre un peu de musique pour se calmer, je trouve que c'est intéressant. Ouais.
Mais c'est vrai, Johan, c'est intéressant parce qu'on se dit généralement quand on met de la musique pour aller courir, qu'on se met de la musique un peu punchy pour pouvoir
se motiver.
En fait.
Mais là, c'est l'inverse.
On ne pense pas au fait de se mettre une musique plus douce au final.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors que sur l'endurance fondamentale, ça peut être très intéressant.
De yoga, là, enfin, moi, je ne connais pas trop les termes relaxante. De musique, mais c'est ces musiques-là, ouais.
En cas de blessure aussi, Hervé, ça peut être intéressant. J'ai vu que certains hôpitaux ont adopté la musicothérapie qui permet de réduire la consommation de médicaments et de favoriser la rééducation physique chez les patients. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant quand on vient de se blesser ?
Oui, ben là pareil, pour diminuer le stress, donc l'anxiété, retrouver des moments d'apaisement, donc des séances de relaxation, donc appuyées ou accompagnées par de la musique, ça fonctionne bien. Donc il y a des protocoles maintenant qui sont bien identifiés justement pour ces séances de relaxation musicale. Et c'est vrai que on cumule avec la musique cet effet bien-être, enfin relaxation, c'est-à-dire synchronisation cardiovasculaire, donc qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, dans les deux sens, accélération ou décélération, mais aussi l'effet bien-être sur le plaisir à écouter une musique qu'on aime bien. Et à ce moment-là, évidemment, là, on va sécréter dans le cerveau un certain nombre de neurotransmetteurs qui vont diminuer les sensations douloureuses aussi, parce que ce sont des neurotransmetteurs qui sont des dérivés aux opiacés. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on prenait des anti-douleurs, mais naturelles. C'est le cerveau qui sécrète de l'anti-douleur naturelle. Voilà.
Est-ce que ça peut avoir un effet placebo, la musique ?
Aussi, bien sûr. Tout à l'heure, on évoquait le détournement de l'attention. C'est une forme d'effet placebo. C'est comme l'hypnose. Il y a une forme d'effet placebo, mais il y a une efficacité. Hein, au-delà du placebo, ce qu'on peut appeler le placebo, c'est-à-dire le fait d'anticiper que ça va nous faire du bien évidemment. Et donc, dans cette croyance-là, elle est importante. Mais c'est vrai aussi quand vous prenez un cachet pour le mal de tête. Hein. Vous attendez que ça vous soulage. Hein.
On parle depuis tout à l'heure de l'écoute de la musique pendant l'effort. Est-ce que ça peut avoir un effet également avant l'effort ? On sait que notre rythme cardiaque peut augmenter en fonction du battement par musique, en fonction des BPM. Est-ce que ça peut être utile en échauffement ?
Oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Après, moi, je vois plein de... Enfin, c'est les contextes, je dirais, du type de sport. Hein. Il y a même, en fin de compte, des coureurs automobiles qui se mettent de la musique, qui vont aller répéter dans leur tête le circuit automobile qu'ils ont à faire. Donc, il y a plein d'utilisations possibles en préparation, oui.
Dans les sports co, c'est également souvent utilisé. Johan, quand on va voir des matchs, généralement, on se rend compte qu'à l'échauffement, ils utilisent de la musique. Est-ce que l'impact est le même sur le sport co ou sur les sports individuels comme la course à pied ?
Ouais, moi je sais que quand c'est des courses importantes, j'aime bien me mettre dans ma bulle et j'ai un peu une playlist. Et c'est vrai que l'heure qu'il y a entre le moment où je pars de l'hôtel et le moment où je vais aller m'échauffer, là je peux écouter de la musique. Ouais. Je peux écouter pendant une demi-heure, 45 minutes de la musique un peu motivante.
Ça t'aide à être concentré.
Ouais, ça m'aide à me concentrer, à me mettre dans ma bulle et j'ai l'impression que ça m'aide sur ça. Et après, à l'échauffement, ça m'est arrivé de m'échauffer en musique, tu vois, pour continuer justement à rester concentré sur soi. Et mais même des fois, alors je vais dire un truc, Des fois, j'ai mes écouteurs, mais il n'y a pas de musique. C'est juste que je n'ai pas envie de parler aux autres.
Et parce que quand tu
es concentré. Ah ouais, parce que disons que tu as toujours des gens, même, même des collègues, hein, tes adversaires avec qui tu cours en équipe de France ou d'autres marathoniens avec qui tu vas participer à l'épreuve. Des fois, tu te parles, tu vois. Et effectivement, des fois, tu n'as pas envie de parler. Tu as envie vraiment d'être concentré sur toi et sur tes sensations, sur l'environnement, sur tout ce qu'il y a autour, mais tu n'as pas envie de parler. Et du coup, je mets les écouteurs comme si j'écoutais de la musique. Comme ça, ils ne me parlent pas.
En fait,
mais
c'est le message pour tes concurrents. Il faut qu'ils viennent te parler pour te déconcentrer.
Et en fait, j'ai rien dans les écouteurs, mais j'ai juste les écouteurs pour faire semblant parce que j'ai besoin de me concentrer en vrai. Cette dernière heure avant la compétition, c'est du temps pour soi. Et c'est vrai que voilà, moi, je mets de la musique et généralement, toujours avant. Et à l'échauffement, soit j'en mets, soit j'en mets pas, ou soit je fais semblant d'en mettre. Il y a trois possibilités.
Nicolas, est-ce que vous observez sur les courses plus de personnes qui en utilisent en échauffement qu'en course ou c'est difficilement quantifiable ?
Je pense que c'est difficilement quantifiable, oui.
Vous disiez tout à l'heure que donc, par la Fédération française d'athlétisme, c'était toléré, que c'était une règle qui venait de World Athletics. Est-ce que ça veut dire que sur les courses qu'on va faire à l'étranger, il faut être un peu plus méfiant et par exemple, sur les marathons, là, récemment, on a eu le marathon de Boston, le marathon de Londres. Est-ce que sur ces courses-là, il faut être un peu plus prudent qu'en France ?
Ouais, je pense. Après, je ne connais pas vraiment les règles qu'ils appliquent, eux, de leur côté. Mais je pense qu'il faut être plus méfiant, oui. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, en fait, la FEDE, la FFA le tolère, mais si on avait un record d'Europe, un record du monde établi, nous, en France, avec quelqu'un qui écoute de la musique, là, par contre, ça ne serait pas homologué.
D'accord, ça ne serait pas homologué par World Athletics.
Ouais, voilà.
Toi, Johan, est-ce que tu observes certains de tes copains qui courent avec toi, qui écoutent de la musique ou pas ?
En compétition, non, jamais.
En compétition, jamais.
Jamais vu en compétition. À l'entraînement, oui, ça arrive. Après, le problème de courir en musique quand t'es en groupe, c'est que ça fait un peu...
Mais tu t'isoles.
Ouais, ça fait un peu le mec qui s'isole et qui veut pas te parler, tu vois.
Comme toi, donc, pendant les échauffements, pas envie de parler.
Ouais, mais moi, c'est avant la compète, donc c'est différent. Là, on est adversaire, on n'est pas collègues. Mais effectivement, non, ouais, courir en musique, c'est vraiment quand t'es seul et que t'as un souci de motivation et que t'y vas solo. Quand t'es en groupe et que tu vas dans un club, effectivement, je conçois pas trop qu'un mec vienne avec ses écouteurs et écoute sa musique alors que t'es 10 à courir en même temps et à faire un footing. Je trouve que c'est pas très, très communautaire et c'est particulier, ouais.
Est-ce que vos coachs peuvent vous dire aussi pendant les entraînements, non, tu m'enlèves ces écouteurs, moi j'ai envie que tu m'écoutes et que tu n'écoutes pas de la musique en même temps ?
Ah non, mais complètement, ouais. Mais enfin, c'est vrai que c'est pour ça que sur les séances de fractionnés, je sais même pas comment tu peux courir avec de la musique parce que t'entends pas la montre qui bip,
le
coup de sifflet du coach. T'es vraiment pas concentré sur ce que t'es en train de faire. Et pour moi, la course à pied, c'est quand même important d'être concentré sur l'effort, d'être concentré sur et en plus, on en a pas parlé, mais enfin, on va y venir. Mais tout le volet sécuritaire quand tu cours à des allures comme nous, à 21, 22, 23 km/h, si tu ne fais pas attention, ça peut vite créer des accidents, quoi.
Après, vous n'êtes pas hyper nombreux à courir à cette allure-là.
Non, mais tu vois, tu vois, sur une piste cyclable, par exemple, souvent, tu rattrapes des enfants en vélo. Ouais, c'est ça. On ne court pas toujours des fois que sur la piste d'athlée. Des fois, tu vas sur des voies vertes ou des pistes cyclables. Là, tu as des jeunes en vélo, tu as un peu du monde autour. Donc, il faut faire attention à l'environnement qu'il y a autour. Ouais.
On va évoquer forcément les risques que cela peut impliquer, notamment l'isolation que ça crée quand on se met un casque sur les oreilles, d'où l'utilité parfois de produits tels que des casques à conduction osseuse. Hervé, est-ce que c'est important de bien choisir son produit et d'éviter de prendre, ça tombe un peu sous le sens, mais d'éviter de prendre des casques qui vont nous isoler complètement des bruits aux alentours ?
Oui, complètement. Alors, c'est peut-être une manière, avec les casques à conduction osseuse, je dirais d'une certaine manière, d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois de pouvoir avoir la musique quand on a envie de l'avoir pour l'entraînement, mais tout en étant sécure d'un point de vue de ce qui se passe dans l'environnement, et puis aussi d'un point de vue social. Bon, c'est important, en fin de compte, la connexion sociale avec les autres. Mmh. Donc, des fois, on est vraiment en entraînement tout seul, mais je pense que bon, les pratiques sportives, c'est aussi, sont pour beaucoup hein, donc des pratiques sociale.
Les risques les plus primordiaux auxquels il faut qu'on fasse attention quand on court avec de la musique, c'est surtout l'environnement urbain qu'il y a autour de nous, notamment quand on court sur la route. Ça peut arriver quand on court en campagne de courir sur la route, quand on court en ville de courir, on le disait à l'instant, de se retrouver sur des pistes cyclables. C'est là que ça devient important de ne pas mettre le volume trop fort et de faire attention quand même à ce qui nous entoure.
Ah oui. C'est clair que déjà, enfin, le volume, c'est une vraie question, hein, parce qu'on voit bien que il peut y avoir sur la durée, hein, c'est le fait d'écouter à fort volume, ça peut être fatigant pour les oreilles, hein, c'est bien connu, et que évidemment, si vous voulez maintenir une audition de qualité tout au long de votre vie, vous avez intérêt quand même à ne pas écouter trop fort. On a régulièrement hein, donc des statistiques qui montrent bien que d'une génération à une autre, avec l'écoute au casque un peu trop fort, on a une baisse auditive donc chez des gens de plus en plus jeunes. Donc ça, c'est un problème. Et puis après, bon, bah, on en revient à la question de l'isolation. Hein. Je pense que là, il faut surtout... on voit une augmentation d'accidents en milieu urbain, mais pas que. Hein, donc personnes qui se font renverser, d'accidents donc de contact. Je pense qu'il ne faut pas être isolé du monde. Et la musique est intéressante, mais il faut trouver le moyen de ne pas être isolé.
Johan, quels sont les autres risques auxquels tu pourrais penser quand on écoute de la musique en courant, hormis ces accidents voilà, qu'on vient d'évoquer, qui peuvent malheureusement arriver?
Ouais, bah après les seuls trucs qui arrivent c'est les problèmes techniques, tu vois, c'est-à-dire que ton Bluetooth qui est mal appareillé à ta truc, ton AirPod qui tombe, ouais. Ton oreillette qui prend l'eau parce qu'il commence à pleuvoir, tu vois, ça c'est des petits trucs, mais c'est des petites galères qui te font sortir un peu de l'entraînement. C'est déjà arrivé à tout le monde. Même à un moment donné, je passais des appels, moi. J'ai eu cette période où des fois, j'avais mon téléphone connecté avec mes AirPods et des fois, le téléphone, il sonne, tu vois, pendant que tu es en train de courir. Alors, à un moment donné, je répondais. alors, ça dépendait qui c'était, mais des fois, tu passes des appels. Ouais. Et alors, c'est vrai que par contre, le temps, là, franchement, tu ne vois pas l'heure passée de footing. Tu as l'impression de ne pas avoir
couru. Pour l'endurance fondamentale, c'est pas mal. Au moins, tu restes sur les bonnes allures.
Tu n'es pas du tout concentré, mais alors... Là, pas un pet. Hein. Là, ouais. C'est un truc de dingue. Alors, ça m'est pas arrivé longtemps, mais ça m'est arrivé pendant 6 mois de faire ça. Après, j'ai dit stop, je ne coupe plus avec le téléphone. Alors, s'il est dans la poche, il est en silencieux, mais tu vois, tu prends plus les appels. Mais c'est vrai qu'on a tous connu ça, le casque qui tombe, les AirPods qui prennent l'eau, la connexion qui ne se fait plus, un appel qui arrive. Et donc, effectivement, là, ça te fait un peu sortir de l'entraînement. Et quand moi, je me suis dit, écoute, ton métier, c'est de t'entraîner. T'es sur tes heures de boulot, donc passe pas des appels pendant que tu t'entraînes et reste un peu concentré sur toi, tu vois. Et donc, j'ai arrêté ça. Mais ouais, c'est une petite problématique auquel on pense pas, mais qui est quand même un peu chiante quand ça arrive, quoi.
J'avais une dernière question, Hervé, sur le cerveau. Est-ce que les effets des encouragements qu'on peut avoir lors des courses sur le bord de la route, ça peut avoir un peu les mêmes effets que ce que la musique nous procure ?
Ah ouais, c'est pas forcément les mêmes mécanismes, mais c'est clair. Hein, bah oui, évidemment. Être soutenu par une foule, c'est vrai pour les musiciens d'ailleurs globalement. Enfin, l'expérience du concert live où on a une foule, surtout si c'est un stade, donc qui vous soutient. Il y a des personnes des fois sont dans des états physiologiques pas très très bons, et puis ce soutien là fait que d'un seul coup, ils sentent pas aussi le temps en fin de compte de leur prestation, ils sont sur un petit nuage, quoi. Donc être soutenu, enfin tous les sportifs ont connu ça, enfin c'est essentiel. Ça booste la dopamine dans le cerveau. C'est essentiel d'être soutenu.
Nicolas, c'est une des choses que vous mettez en place sur des courses, mettre des points d'animation pour pouvoir encourager les gens, pour pouvoir leur redonner des coups de boost.
Oui, on voit souvent ça, effectivement. Les grosses organisations mettent des groupes de musique à intervalles réguliers pour animer un petit peu et pour rebooster les coureurs, oui, c'est vrai.
C'est un des conseils que tu donnes d'ailleurs régulièrement, Johan, c'est de profiter de l'environnement qui nous entoure quand on est sur une course et de ne pas rester sur sa musique, de profiter de tous les gens qui nous encouragent sur le bord de la route.
Ouais, bah surtout sur des efforts relativement longs où des fois tu as besoin de trouver un peu des leviers pour te motiver. Là, tu vois, typiquement la semaine dernière, j'étais au marathon de Londres et c'est vrai que le problème, enfin, c'est pas un problème parce que c'est ouf, mais le marathon de Londres, du premier kilomètre au 42 km, c'est au 42e, c'est 42 km mais assourdissant où tu as tout le temps du monde, tout le temps des gens qui te crient dessus, ouais. Qui te hurlent dessus. Et le conseil que j'avais donné à certains coureurs qui avaient peur un peu de qui couraient en 4 heures, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, quand tu cours 4 heures et qu'on te crie dessus pendant 4 heures avec de la musique, les Anglais sont... Moi, j'étais sur une zone d'encouragement au 35e, mais en fait, tous les 500 mètres, il y avait une zone d'encouragement avec des baffes de rêve parti. Tu vois des trucs, ah ouais. Ça envoyait la sauce. Et honnêtement, quand tu es dans le dur, je me suis dit, oh là là, mais ça doit être dur de se faire crier dessus. D'entendre ce brouhaha incessant. Et le conseil que j'avais donné et qu'on m'a dit c'était vraiment enfin que ça avait un peu aidé, c'est j'ai dit vous avez, enfin ceux qui avaient l'habitude de courir en musique, j'ai dit bah une partie de la course tu pars du marathon, tu mets tes écouteurs et tu es concentré sur ta musique et sur ton rythme, mais t'es plus concentré trop sur l'environnement extérieur parce que ça devenait paralysant, tu vois, quand tu as 4 heures ou de brouhaha incessant. Et franchement, ça a bien fonctionné. Certains m'ont dit, voilà, la première heure, bah, j'ai préféré être focus sur ma musique. Et après, les 3 heures suivantes ou les 2 heures suivantes, concentré sur l'environnement, à profiter des encouragements, à taper dans les mains des gens, à profiter de ça. Et c'est vrai que pour le coup, la musique, c'est ça, c'est qu'elle elle t'amène ailleurs, elle t'amène dans un autre mode où t'es peut-être en train de courir le marathon, mais tu profites enfin, t'es un peu plus au calme, oui. En pleine conscience sur toi-même et un peu recentré sur toi. Et c'est vrai que ça peut être un conseil intéressant, mais c'est vraiment que sur les gros marathons comme Boston, Londres ou New York, où c'est vraiment une ambiance de dingue du 0 au 42.
C'est pas sur toutes les courses, même s'il y a souvent du monde qui est là pour nous encourager. Hervé, j'ai juste une toute dernière question. Par quoi est-ce qu'on pourrait conseiller les coureurs pour compenser la musique pour ceux qui ont du mal à s'en passer, mais qui aimeraient essayer? Vous conseillez quoi Nous, on conseille souvent de sourire pendant qu'on court. Est-ce qu'on peut vous conseiller d'essayer d'avoir des pensées positives? Comment on peut essayer de duper un peu son cerveau autrement qu'avec la musique?
C'est vrai qu'alors, je pense que c'est toujours là aussi une question d'équilibre, c'est-à-dire il ne faut pas... Alors, on peut tout à fait imaginer, par exemple, s'imaginer un film qu'on a vu, etc. Enfin, détourner son attention là aussi et puis essayer, en fin de compte, d'avoir des pensées qui permettent de détourner un petit peu, enfin, d'avoir de la motivation et de détourner un petit peu des sensations douloureuses. Mais toujours pareil, il faut trouver l'équilibre de manière à quand même être maître à bord, c'est-à-dire d'une certaine manière il faut arriver en fait à avoir en fin de compte la maîtrise de son corps tout en permettant à lâcher prise et ça c'est un équilibre toujours un petit peu précaire à trouver.
Merci Hervé Platel, neuropsychologue à l'université de Caen-Normandie, on le rappelle, et Nicolas Pin, arbitre de la Fédération française d'athlétisme, d'avoir été avec nous sur cet épisode. C'est passionnant tout ça et ça concerne évidemment beaucoup de monde.
Au moins on sait qu'on peut courir en musique, que c'est toléré, tu vois.
Voilà.
Moi je pensais que c'était
exactement.
Vraiment
c'est vrai qu'on
interdit.
Pensait que c'était vraiment interdit et on a appris quelque chose. Donc voilà, vous pouvez continuer de courir pendant vos courses avec de la musique, vous ne serez pas disqualifié. Merci Hervé, merci Nicolas.
Merci à vous.
Et on va passer, Johan, au bon plan du jour.
RMC.
Le bon plan matos.
Et notre bon plan, Johan, c'est un cadeau qui est quand même extraordinaire que RMC Running peut faire gagner à 2 auditeurs. C'est le nouveau, on en parlait à l'instant, le nouveau casque à conduction osseuse Shox Open Pro 2 qui offre une qualité sonore incomparable pour les grands amateurs de sport, offrant jusqu'à 12 heures d'écoute inégalée. Équipé de microphones à réduction de bruit et d'un arceau en alliage de nickel et titane de qualité supérieure et t'en parlais juste avant, qui garantit aussi de pouvoir passer des conversations, d'avoir des conversations téléphoniques. Une clarté cristalline, même dans des conditions venteuses. Donc voilà, c'est un cadeau qui est quand même de haute qualité. Il me semble que tu en as un d'ailleurs.
Ouais, j'en ai un, ouais. Je cours un peu avec ça. C'est ce que j'utilise quand je cours parce que c'est vrai que c'est quand même... Bah, d'un point de vue sécuritaire, c'est quand même le top du top, hein, parce que tu restes vraiment... C'est assez bluffant. Moi, la première fois où j'y croyais pas trop, et la première fois où j'ai mis ça, j'ai trouvé ça hyper bluffant, parce que tu mets le casque, donc tu entends très bien la musique, mais si quelqu'un te parle, bah, tu l'entends très bien aussi. Alors, tu as deux conversations à la fois, donc là, il faut que le cerveau soit... il faut être concentré. Mais du coup... Effectivement, c'est assez bluffant et la particularité, c'est ça, c'est que tu peux être vraiment attentif à l'environnement. Donc,
d'un point de vue sécuritaire, c'est hyper intéressant.
Sécuritaire, tu peux pas faire mieux. Moi, avant, je courais avec classique avec des AirPods. Alors moi, j'avais la chance, les AirPods, franchement, même quand je courais vite, ils tombaient pas trop, ils tombaient quasiment jamais. Mais là, en plus, t'as pas ce problème-là de maintien. Le truc, c'est hyper léger. Je crois, ça fait moins de 30 grammes. Ça doit faire 29 grammes. Enfin, c'est super.
Oui, tu le sens à peine.
C'est super confort et ça tient très bien et donc voilà, c'est pour moi le bon rapport. Si on doit courir avec un casque, c'est mieux d'utiliser ça que n'importe quel autre
système. Et en plus, on le précise, on peut avoir des doutes quand on voit des casques comme ça, quand on n'a jamais essayé, mais la qualité sonore est incroyable.
Ouais.
Ça n'a rien à envier au reste des casques et des écouteurs.
Non, tu ne fais pas trop de diff. Alors peut-être que David Guetta, lui, fera la diff entre la qualité de son, de basse et de je ne sais quoi là, mais en tant
que... Non, franchement, pour l'usage qu'on en a, c'est vraiment très calme.
Pour écouter RMC Running, ma voix sera la même, ça sera tout pareil.
Donc je vous le disais à l'instant, RMC Running, elles n'ont pas un, mais deux casques à faire gagner. Rendez-vous sur notre compte Instagram RMC Running pour les modalités pour pouvoir remporter ce magnifique cadeau. Merci Johan, en tout cas c'était hyper intéressant comme épisode. Bah, continuez d'écouter RMC Running pendant que vous courez, hein. Voilà, on voit que les performances ne sont pas tronquées, en tout cas avec un podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, on espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, TikTok, Strava. Abonnez-vous également sur notre chaîne RMC Radio pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ciao.
RMC Running.